Je suis prêt à parier que vous qui écoutez cette émission êtes abonné à une ou deux chaînes de diffusion continue, probablement Netflix ou Disney+. Moi, je suis abonné à 6 de ces plateformes. Mon nom est Marc Alexander et vous écoutez la liste d'écoute, premier épisode. Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle balado dédiée exclusivement à ce qu'on retrouve sur les plateformes de streaming, sur les plateformes de diffusion en continu. Je suis Marc Alexander et je serai votre hôte tout au long de cette nouvelle aventure qui durera, je l'espère, très longtemps. Premier épisode, on fait ça un peu différent. Je vais me présenter, je vais vous parler de ce que je veux faire avec ce petit projet. Et c'est ça. Maintenant, laissez-moi me sortir mes show notes. Donc, effectivement, je suis Marc Alexander et je suis abonné à 6, maintenant 7 plateformes de diffusion en continu. Je paie un abonnement. Je ne suis pas sponsorisé en aucun moment. Je paie un abonnement à Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, Paramount+. Et grâce à TELUS, j'ai accès ici, tout.tv, gratuitement. Toutes ces plateformes ont une chose en commun, une option liste d'écoute, aussi appelée watchlist, en anglais liste de regardage, qui est beaucoup plus appropriée. Donc, une liste d'écoute où on peut cataloguer les choses intéressantes à regarder. Cette semaine, comme je vous dis, on fait ça un peu différent. Je vais vous parler des plateformes de diffusion en continu, lesquelles sont mes préférées, pourquoi je les utilise, comment je les utilise, et on va réviser ce que j'ai écouté cet été, mes coups de cœur de l'été. On ne peut pas passer à côté de Stranger Things saison 4 sur Netflix. Je vais également écouter Tic et Tac, les Rangers du risque, un petit film familial sur Disney+. J'ai écouté La Princesse, un film avec Joey King sur Disney+ également. Et pour faire le tour des autres plateformes, j'ai regardé le petit documentaire « Où es-tu Charlie Brown » sur Apple TV+. Et j'ai regardé pas plus tard qu'hier soir les deux premiers épisodes du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Je vous dis ce que j'en pense. Mais tout d'abord, on va parler un peu de technique parce que c'est des choses qui m'allument, avec quoi j'enregistre, comment je fais mon petit projet. Donc sans plus attendre, bande sonore technique. Il y a toutes sortes de façons d'enregistrer un podcast. Il y a ceux qui ne se compliquent pas la vie. On peut l'enregistrer directement avec notre téléphone, notre iPhone, notre Samsung. Il y en a d'autres qui aiment ça se compliquer un peu plus la vie. On pourrait dépenser des milliers de dollars pour faire ce que je fais actuellement. Moi, ici, ce que j'ai, c'est environ un kit qui coûte 250$. J'enregistre ce petit projet. J'enregistre la liste d'écoute à l'aide d'une console USB Focusrite Scarlett Solo, d'un pod mic The Rode monté sur le boom arm, le bras de micro du Blue Compass fait par la compagnie Blue. Et j'enregistre le tout et je le mixe dans GarageBand sur mon iMac 2021 bleu. Je voudrais aussi vous dire que le thème du jour s'appelle Adventure of the Imaginative and Unmanageable par Grant Newman. C'est de la musique libre de droit que je trouve extrêmement appropriée lorsqu'on va parler d'aventures et d'émissions qu'on va regarder tout le monde ensemble. Maintenant, c'est le premier épisode, ça va être un peu différent. On ne parlera pas seulement que de reviews, que de revues de shows que j'ai regardées. Je vais tout d'abord vous expliquer comment c'est possible, combien ça coûte quand on est abonné à 6 chaînes de diffusion en continu. C'est pas tout le monde qui fait ça. Normalement, selon les estimés qu'on a actuellement, la plupart des ménages canadiens sont abonnés à une ou deux et le font un peu par alternance. Moi, dans mon historique, avant la fermeture des clubs vidéo, des blockbusters de ce monde, j'achetais en quantité industrielle les films qui étaient sur les étagères à 6$ préutilisés. Je les ai encore d'ailleurs tous et je ne sais plus quoi faire avec. Et comme j'adore ça, eh bien, puis que j'ai probablement peur d'en manquer un peu, je m'abonne à toutes ces plateformes. Tout d'abord, la première d'entre toutes, écoute, c'est bel et bien sûr Netflix qui est là depuis 1997 et qui compte environ 75 millions d'utilisateurs au Canada et aux États-Unis, 221 millions au total. Netflix, c'est le premier, c'est le meilleur. Peut-être pas au niveau de la qualité du contenu, mais c'est eux qui en produisent le plus. Cet été, ils ont eu quelques petits problèmes. L'action a descendu. On parle pour Netflix de 2934 films et séries originales et 3 plans d'abonnement. Moi, j'utilise bien sûr l'abonnement premium à 20$. Pour ce qui est de Amazon Prime Video, je vais être bien franc avec vous, ce n'est pas ma préférée. J'ai commencé dernièrement l'émission The Boys. C'est très bien. Là, je suis dans un petit point mort de la saison 2, mais bon, Prime Video, c'est peut-être celle que je regarde le moins. Parce que Prime Video, je l'ai parce que je suis abonné à Amazon Prime. Lorsqu'on commande sur Amazon, ben, ils te le donnent gratuit. C'est juste un petit point de plus. Je fais partie des premiers abonnés de Disney Plus au Canada le 12 novembre 2020-2019. On pouvait s'inscrire. Je me suis inscrit à 6h du matin. Disney Plus, c'est la force de son catalogue. Disney Plus, c'est Star Wars, c'est Marvel. Toutes des choses qui me font triper. Et c'est bien entendu probablement la dernière plateforme que je vais. Duquel je vais me séparer, disons, lorsque viendra le temps de faire des choix économiques. On a besoin d'un peu de contenu canadien, donc Crave et ICI-Tout.TV. ICI-Tout.TV, je l'ai gratuitement parce que je suis abonné à une compagnie de téléphone qui me l'offre dans mon forfait. Et Crave, bien, c'est pour avoir accès à ce qui est HBO Max, Game of Thrones. Bien entendu, ça prend ça. Je vous avoue quelque chose. Je n'ai pas écouté Game of Thrones. Ma femme l'a fait. Et aussi, j'ai 6 plateformes de diffusion en continu parce que j'ai 4 enfants. 2 à moi et 2 à ma femme. Je suis marié depuis le mois de mai à une personne extraordinaire qui me laisse faire un peu ce que je veux dans la maison, dont cet extraordinaire balado, et elle me supporte à 100%. Je l'aime pour ça. Et pour plein d'autres choses aussi. Peut-être qu'elle viendra faire un tour sur notre balado ultérieurement. J'ai aussi l'intention d'inviter les enfants qui viennent nous dire qu'est-ce qu'eux, ils regardent sur ces plateformes-là. Parce que quand on a 4 enfants, puis une femme qui écoute beaucoup de télé, mais ça prend beaucoup de choix parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, retour à nos moutons. Si on calcule tout ça, Netflix me coûte 20,99. Prime Video, et en tout cas l'abonnement Prime pour Amazon, me coûte 7,99. Apple TV+, je l'ai dans un forfait à Apple One où j'ai tous les petits services en ligne d'Apple, ce qui est bien d'Apple TV Plus en plus, ce qui est bon d'Apple TV Plus en plus, Apple TV Plus, j'en ai pas parlé encore, c'est probablement celle qui fait de la télé le plus nouveau genre. Il y a beaucoup moins de contenu, mais c'est tout original, et en plus, c'est la première plateforme qui nous offre du sport en direct. On peut écouter le vendredi soir le baseball de la Ligue majeure, et pour quelqu'un qui aime beaucoup le sport et qui n'a plus de corps depuis bientôt 5 ans, c'est des belles alternatives quand on n'a rien à faire un vendredi soir, un match de baseball en fond, c'est extraordinaire. Et à partir de l'année prochaine, 2023, Apple TV va nous offrir le soccer de la MLS pour un prix supplémentaire que je vais probablement débourser afin de pouvoir suivre, j'allais dire l'Impact, le CF Montréal. Donc oui, Apple TV+, c'est ça, c'est 5,99$, mais ça m'en revient un peu moins cher avec le plan que j'ai. Disney+, on le paye par an, c'est 120$, 119,99$. Ça nous revient à 9,99$ par mois au lieu de 11$. Crave, c'est le plus cher d'entre tous, celui que j'écoute le moins, mais quand même le plus cher, mais on veut y avoir accès. Crave nous revient à 19,98$ et Tout.tv est gratuit pour moi, mais vous pouvez vous abonner sur les plateformes de Radio-Canada au prix de 6,99$ par mois. Tout ça ensemble, ça nous donne 65,94$ et je devrais rajouter Paramount+, que j'ai Me suis abonné aux 7 jours gratuits. J'ai oublié de me désabonner. Ça me coûte 60 $ pour la première année. Actuellement, Paramount Plus, c'est un système de streaming qui est à ses premiers balbutiements. Et il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse là-dessus. Je ne suis pas un fan de South Park. Mais avant d'aller voir Top Gun Maverick, j'ai pu écouter le Top Gun original qui se retrouve sur Paramount Plus. Donc, tout ça ensemble, ces 6 plateformes-là, je n'ai pas de câble, me coûte 65,94. Normalement, la famille québécoise qui a un câble, j'ai vérifié là, chez les deux grandes compagnies que l'on connaît. Un abonnement au câble avec un peu de sport, parce que c'est ce qui me manque, va nous coûter dans les 70 $. Donc, c'est pas mal l'équivalent. C'est pas mal équivalent, sauf que normalement, la famille moyenne québécoise, encore à l'heure actuelle, est abonnée au câble à 70 $ et une plateforme de diffusion continue, soit à 10, plus souvent à 20 $. Donc moi, je fais une économie substantielle de 20 $ par mois parce que je n'ai plus le câble. Mais voilà. J'ai des habitudes d'écoute, c'est certain. Je vous l'ai dit précédemment, Disney+, avec Marvel, avec Star Wars, avec les princesses. Je suis père de deux filles, je connais mes princesses. Tout son catalogue, son historique, c'est vraiment pour moi la plateforme par excellence. Mais on ne peut pas jurer que par ça. Ça prend du complémentaire, ça prend du Netflix et... Comme probablement la plupart d'entre vous, je me suis abonné à Netflix à cause de Stranger Things. Si je veux un podcast qui marche, je dois faire un gros effet. Et est-ce que cet gros effet-là va être de donner, de donner un mauvais score à la série de l'heure, à la série de l'année sur les plateformes de diffusion continue, qui gagnera certainement plusieurs prix, ne serait-ce qu'au niveau des effets spéciaux? Ben non, je le dis, je les planterai pas tant que ça, mais il y a des choses dans Stranger Things saison 4 qui m'ont dérangé. Stranger Things, c'est la série culte des Duffer Brothers sur Netflix, parue en deux dates, donc le 27 mai pour les épisodes de 1 à 7, et les deux derniers épisodes sont parus, les épisodes 7 et 9, sont parus le 1er juillet dernier. Pour ces 9 épisodes d'une durée de 12,85 heures ou 771 minutes, avec une finale de 2h30, et ils ont un budget astronomique de 30 millions par épisode. 30 millions par épisode, c'est 6 fois plus que d'autres séries, d'autres séries de Netflix, on s'entend, telles que 10 fois plus que Bridgerton ou Virgin River, qui marche aussi très bien. La quatrième saison de Stranger Things compte 20 acteurs principaux au générique, dont Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown en tant que Eleven Jane. Finn Wolfhard nous incarne le très lourd Mike Wheeler. Nos favoris sont bien sûr Dustin Henderson et Steve Harrington, interprétés par Gaten Matarazzo et Joe Carey. Donc, si je vous lisais la description faite de la quatrième saison, afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, si on se rappelle bien, la saison 3 se termine alors que tous nos personnages prennent des directions différentes. Jane Eleven est d'un côté avec Joyce et Will. Mike reste à Hawkins et... c'est ça. Donc, 6 mois se sont écoulés depuis la bataille de Starkcourt, la bataille du centre d'achat qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubant, nos amis se retrouvent séparés pour la première fois et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et avec elle un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers. Et c'est là que le bas blesse, je vous dirais. Parce que, comme il y a 20 personnages principaux ou génériques, il y a plusieurs groupes. Et donc, la première intrigue se déroule à Hawkins, où plusieurs adolescents sont tués de manière mystérieuse. Jusque-là, ça va bien, c'est très intéressant. Il y a Dustin Anderson, Max Mayfield, Lucas et Erica Sinclair, Steve Harrington, Nancy Wheeler, Robin Buckley et Eddie Munson. Déjà là, on en a 9. Eddie, ce dernier, devient le principal suspect de meurtre et est traqué par Jason Carver, l'équipe des douchebags et les membres de l'équipe de basketball, qui croient qu'Eddie a tué la petite amie de Jason. Mais au retournement de situation, Chrissy Cunningham, en utilisant des pouvoirs sataniques, c'est pas ça du tout, on le sait tout. La deuxième intrigue implique Mike Wheeler rendant visite à Eleven, Will et Jonathan Byers dans leur nouvelle maison en Californie. La troisième intrigue suit Joyce Byer, Murray Bowman, alors qu'ils essaient de sauvegarder notre ami Jim Hopper qui est mort et ou disparu quelque part en Russie. Et c'est là que je commence à avoir de petits problèmes. Bon. Les histoires ne sont pas toutes intéressantes. On a tous Stranger Things, mettons de l'ordre dans nos idées. Stranger Things, c'est la quatrième saison, on s'est attaché au personnage et, veut, veut pas, on a tous des préférés. Pour ma part, mes préférés sont la bande de Steve et de Dustin. Moi, je prendrais du Steve et du Dustin pendant 771 minutes non-stop. En plus, ce sont eux qui ont l'intrigue principale la plus intrigante, celle qui se déroule à Hawkins, où le nouveau méchant Vecna tue des gens afin de restaurer, mais de faire sortir son univers dans Hawkins. Ça, c'est intéressant. D'un autre côté, on a Finn Wolfhard, Mike et Jane et Jonathan Byers et Will qui, eux, errent son but en tentant de protéger Eleven. Ça demeure un peu lourd, pas nécessairement parce que sont pas bons, mais les personnages sont juste non attachants et un peu lourds. Moi, un jeune comme Mike qui pleure sa vie parce qu'elle ne m'aime pas, elle est bien trop spéciale pour moi, je trouve ça un peu crétin. Genre, man up et fais ta vie. Puis, bon, ben, tout ça, ben, ça étire en longueur. Et quand tu tombes sur un épisode où il est question que de Mike et ses petits problèmes d'attitude amoureuse, je décroche. Puis après ça, ben, il y a également la partie en Russie où Will, ou Joyce, pardonnez-moi, tente de sauver notre ami Hopper. Mais bon, ça va bien. Mais je trouve que cette partie-là de l'histoire, au final, n'apporte pas grand-chose. Est-ce que c'est bien ficelé? Oui. Mais ça occasionne certaines longueurs sur 771 minutes. On aurait pu en couper un épisode ou deux et ça arrêterait très bien. Attention, spoilers ahead, divulgateurs en vue, donc si vous ne l'avez pas écouté, arrêtez ça maintenant, mais la mort qui survient dans le dernier épisode est une mort insignifiante, c'est de l'écriture bâclée. Je m'explique. Si ces personnages-là, on s'est tous attachés autour des quatre saisons, on a chacun, comme je disais tout à l'heure, nos favoris. Et pour garder ton spectateur sur le bout de ton siège, tu devrais tuer quelqu'un qui est significatif pour ton auditoire. Si, par exemple, on tue Steve Harrington, je demeure encore sur le bout de ma chaise et je suis encore fâché, encore insulté que ce personnage-là soit mort et j'ai très hâte pour la cinquième saison. Le personnage qui meurt à la fin de cette quatrième saison-là aurait très bien pu prendre le rôle de Steve Harrington auprès de Dustin, celui de mentor, et poursuivre sa mission. Mais non, on a tué le personnage qui arrive dans la saison 4, auquel on s'attache considérablement, mais avec qui on n'a pas le même lien d'attachement qu'on a avec Steve, avec Dustin. Fait que j'ai trouvé que c'était assez paresseux. Et lorsqu'on a 20 personnages générique, il serait peut-être temps d'en tuer un peu afin de... Je comprends que on n'est pas Game of Thrones, mais afin de garder les spectateurs sur le bout de leur siège et susciter des nouvelles réactions. On ne peut pas faire entrer un nouvel univers très noir et sanguinaire dans une ville sans qu'il y ait personne qui meure jamais. Donc, si je peux voter sur cette question, j'aurais aimé que Steve Arrington soit celui qui meurt à la fin de la saison et non pas Eddie. Aussi iconique qu'eût été son solo de guitare. Mon chiolage est terminé. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'était un bon divertissement? C'était quand même très bien. C'était quand même très bien. Et ma note pour Stranger Things saison 4, qui doit être écoutée parce que ça demeure de la bonne TV, il y a de l'extrêmement bonne musique. Vous avez tous entendu le retour fracassant de cet artiste qui m'échappe des années 80, Madame Kate Bush. Cette chanson-là a réapparu sur les tableaux et elle cartonne, quoi. Elle cartonne. Tout ça à cause de cette série. Et même si je trouve ça un peu niaiseux et que je ne veux pas embarquer dans ça, force est d'admettre que j'ai recherché Kate Bush sur mon Apple Music à quelques reprises. Rotten Tomatoes, le site d'agrégat de critiques, donne une note de 89%, la même note que la saison 3, qu'on avait pourtant, somme toute, détestée, trouvée un peu longue, pour les mêmes raisons, trop de personnages. 89% donc sur Rotten Tomatoes. Et moi, pour les raisons énumérées précédemment, je vais lui donner un gros 7 parce que j'ai quand même eu du plaisir. C'est des personnages qu'on aime bien et que du Steve et du... Pas du Mike, je le déteste. Et que du Steve et du Gavin Matarazzo, du Dustin, c'est ça. Steve et Dustin, on en reprendrait encore et encore. Faites une série. Seul et unique, maintenant. Ensuite, sur notre liste d'écoute, on va passer à Disney+, pour les deux prochains films. Les deux prochains films sur ma liste d'écoute se retrouvent sur Disney+. Il s'agit du film événement de l'été, un bon divertissement familial, Tic et Tac, Les Rangers du Risque. C'est sorti le 20 mai 2022. C'est réalisé par Akiva Schaffer. Les acteurs principaux sont John Mulaney, qui incarne Tic, et Andy Samberg, qu'on a pu voir dans Brooklyn Nine-Nine en tant que Jake Peralta, mais ici incarne notre sympathique ami Tac. C'est d'une durée plus qu'appréciable, idéale pour les enfants. Un passe-temps génial de 96 minutes, 1h36, avec un petit budget rikiki de rien du tout de 70 millions de dollars. Donc, voici ce qui se passe dans Tic et Tac, les Rangers du Risque. It's not a reboot, it's a comeback. Ce n'est pas un retour, ce n'est pas un remake, c'est un comeback. Donc, 30 ans après l'arrêt brutal de leur série à succès, Tic et Tac, les Rangers du Risque, Tic et Tac ont pris des chemins différents. Tic est aujourd'hui agent d'assurance, enchaînant les récompenses et les titres d'employé du mois. Il vit désormais dans un quartier résidentiel banal et de son côté, Tac a subi une opération et est devenu un personnage animé par ordinateur. On va se le dire, une update plus qu'appréciable. Il écume les soirées nostalgiques, les conventions de fans où il tente de retrouver sa gloire passée. Les conventions de fans où il signe des autographes pour revivre sa gloire passée. Quand un ami commun disparaît, on parle de Monterey Jack, qu'il l'appelle, je ne me souviens plus comment on l'appelait en français dans la série. Tic et Tac vont devoir refaire équipe et reprendre leur costume de Ranger du Risque. Le film est annoncé depuis 2014. C'est depuis 2014 qu'on sait qu'on va avoir un film de Tic et Tac. Le réalisateur pour le faire est nommé en 2019. C'est Post Malone qui refait le thème des Rangers du Risque à la fin du film et ça marche plutôt bien. Je vous invite à aller écouter ça. Lors de la semaine de sa sortie, il réussit à atteindre le 10e échelon des titres les plus regardés sur les plateformes de diffusion en continu. Et maintenant, contrairement à Stranger Things, ma critique et je vous dis, c'est génial. Je pensais pas qu'un film de ce genre-là était possible encore en 2022. Avec toutes les charges gardées de studio, tu peux pas toucher à ça. Spider-Man est à moi, Star Wars est à nous. Avec tout ce qui arrive en termes de guerre de copyright, je me suis dit que plus jamais on aurait un qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais ici, on signe son digne successeur. Tic et tac ont même une scène avec l'iconique petit lapin. C'est exactement la même chose, exactement le même procédé. Par une espèce d'amalgame bizarre des lois, ils sont capables de faire plusieurs petits clins d'œil. Disney est capable de faire plusieurs petits clins d'œil à des propriétés qui ne leur appartiennent pas. À un certain moment, on a même Fred Caillou qui se pointe. L'équipe de production n'est pas tombée dans le panneau de faire un reboot, mais bien un retour, parlant aux jeunes devenus adultes qui ont fredonné la chanson thème, il y a de cela 30 ans. Puis, en même temps, les jeunes ne trouveront pas ça trop lourd. J'ai moi-même essayé de réécouter, en prévision de ce film, la série animée qu'on écoutait quand on était jeune, et la vérité, c'est que ce n'est plus écoutable lorsqu'on a 40 ans. Rotten Tomatoes, le site d'agrégat, donne 80% et moi, j'y donne un 9 parce que 10, on ne peut pas donner 10 tout le temps. Petit fait cocasse, le réalisateur a bien essayé d'obtenir, en tant que vedette, passer son heure, le sympathique mascotte de Star Wars, Jar Jar Binks, mais malheureusement, c'est tombé sur le Sonic Lay. Je vous invite à regarder ça. Si vous êtes un petit peu comme moi, fanatique des années 90, que vous vivez un peu dans le passé, pas qu'on vit dans le passé, mais c'est de la nostalgie. On écoutait tous cette chanson lorsqu'on avait 9-10 ans. Je lui donne donc un gros 9 et je vous dis, allez écouter ça tout de suite si c'est pas déjà fait. L'autre émission, l'autre film que j'ai regardé cet été sur Disney+, je ne l'ai pas regardé à sa sortie parce que c'est pas un film sur lequel on se garoche. C'est La Princesse. La Princesse, qui est un film avec Joey King. C'est un film qui est à la mode. C'est un One Woman Army, pour reprendre le terme associé. C'est une princesse qui est gardée prisonnière au sommet d'une tour et qui doit faire son chemin jusqu'en bas avec ses aptitudes de combattante pour sauver sa famille. J'ai adoré ça. C'est un film très court de 1h34 avec un budget de 150 millions. On le décrit de la façon suivante. Lorsqu'une princesse refuse d'épouser un cruel sociopathe, elle est kidnappée et enfermée dans une tour. Et son prétendant vindicatif est désireux de prendre le trône de son père. La princesse doit donc sauver le royaume. C'est adapté d'une bande dessinée. J'ai fait mes recherches, mais j'ai pas réussi à retrouver lequel. Donc, c'est un film que j'ai écouté avec aucune attente et qui m'a surpris au plus haut point. J'ai écrit ça il y a quelques mois. J'ai dit c'est mon préféré de la semaine. C'est vraiment un film que j'ai adoré. J'ai toujours eu un faible pour les filles qui savent se défendre. Les femmes fortes, pour moi, c'est des bons personnages. C'est en plus Joey King dans ce film-là. Bien entendu, elle est très jolie, mais ne joue pas sur sa sexualité. À écouter, même quand on est fatigué, mais par exemple, ça a bien beau s'appeler La Princesse, c'est pas pour les enfants. Il y a du sang. Allez chercher ça tout de suite. Rotten Tomatoes, je lui donne un gros 60. Moi, je lui donne un 8. C'est à écouter. Bien relax. Avec ta conjointe, avec ton conjoint, comme tu veux, La Princesse, je vous le propose fortement. On termine ma revue de la semaine avec un petit documentaire que j'ai regardé cet été sur Apple TV+. Ça s'appelle « Qui es-tu, Charlie Brown? » et ça retrace l'histoire de Charles M. Schulz, qui est le créateur de cette bande dessinée iconique. C'est ça, donc, en l'honneur du créateur Everyman, Charles Sparky Schulz. Qui es-tu, Charlie Brown? Est un documentaire original d'Apple qui célèbre l'importance et la popularité multigénérationnelle mondiale de la bande dessinée ainsi que son talent artistique et son design intemporel pour présenter l'homme dont les personnages simples allaient toucher la vie de millions de personnes au fil des décennies et devenir des icônes culturelles bien aimées. Le documentaire entrelace une nouvelle histoire animée qui suit Charlie Brown dans une quête pour se découvrir. Je pense qu'en tant que Québécois, on ne saisit pas tous l'influence et l'importance qu'a Charlie Brown sur le mythique américain. Charlie Brown, c'est une bande dessinée qui a été parue tous les jours pendant près de 50 ans. C'est un excellent documentaire de surface si vous voulez en apprendre plus sur ça ou commencer peut-être à explorer le sujet. Mais moi, même si j'aurais beaucoup aimé aller plus en profondeur, on aurait pu limiter la partie animée qui était un peu ennuyante et donner plus de faits. C'est un documentaire rapide qui dure environ 54 minutes. Pas environ, 54 minutes. C'est un documentaire rapide qu'on écoute avec Wikipédia ouvert pour aller chercher les petits détails manquants. On discute même dans ce documentaire-là avec la veuve de Charles Schulz. J'admire cet homme qui n'a pas voyagé et qui, à tous les jours, prenait du temps pour dessiner le personnage aimé par plusieurs générations. Je ne sais pas si c'est triste ou si c'est tout un fait. J'admire. Rotten Tomatoes lui donne un 88%. Juste parce que j'aurais aimé ça aller plus en profondeur, parce que c'est un sujet qui m'intéresse grandement. Moi, je lui donne un 6,5, mais comme je vous dis, si ça vous intéresse, allez-y. Ça donne une bonne perspective sur qui était l'homme, Charles M. Schulz. Ma dernière revue pour aujourd'hui, c'est fait à chaud, j'ai rien écrit. J'ai terminé hier soir les deux premiers épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Et je veux en parler parce que je suis un peu étonné de la réaction du public. On fait une série la plus chère jamais produite. Les chiffres pour la réalisation de cette série sont astronomiques. Et la qualité est là, les images sont extraordinaires. Ça se passe, si je ne me trompe pas, environ 1000 ans avant les aventures de Frodon et Sam Gamgee. C'est un bel hommage à la Terre du Milieu et on retrouve les elfes que l'on connaît car ils sont immortels, Galadriel et Elrond, alors qu'on est dans un temps de paix. Je sais pas, j'ai vu les critiques sur Rotten Tomatoes, toujours la ressource par excellence. Les sources critiques journalistiques, disons-le, donnent des scores extraordinaires, mais l'audience nous met ça à 34%. Et pourtant, les images sont géniales, le casting est assez bon. Pour ce qui est de Galadriel, on y croit, on voit Kate Blanchett. Pour ce qui est d'Elrond, c'est un peu moins ça. Moi, je m'attendais à avoir un plus ou moins un sosie de Hugo Weaving qui l'interprétait dans la trilogie de Peter Jackson. C'est pas tout à fait ça, mais bon, ça demeure des personnages de fiction. Il faut se faire une idée. Mais 34%, je vous avouerai que je ne comprends pas. Il y a une règle. Lorsqu'on commence une série, et j'en écoute beaucoup, il faut toujours donner 2 ou 3 épisodes. Et Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir remplit tout ça. À la fin du premier épisode, je me garde sur mon siège, je me donne un deuxième épisode d'environ entre 68 et 65 minutes, je pense qu'ils font respectivement. Là. C'est quand même un peu long, mais on reste sur le bout de notre siège. Encore une fois, les histoires sont séparées, mais comme c'est un hommage à la Terre du Milieu, on donne les Anneaux de Pouvoir, chacune des races habitant la Terre du Milieu va recevoir un anneau. Faut qu'à quelque part dans ça, ces gens-là viennent se rencontrer. Donc 34%, vraiment, je pense pas. Moi, je vais écouter le prochain. Et puis, on se reparle à la fin de la série. Probablement que lorsque tout va s'emboîter ensemble, la note sera meilleure. Pourquoi les fans, peut-être, n'aiment pas ça? Parce que, peut-être, il y avait un certain phrasé dans le film de Peter Jackson. Hein? Puis ce phrasé-là, la manière dont les personnages parlent, n'est pas tout à fait là dans la série, mais encore une fois, on ne fait pas un film, on fait de la télé. C'est pour ça que c'est différent. 34%, je pense que ça va monter. Mais allez écouter ça, c'est la série la plus chère jamais faite. La production est extraordinaire et c'est quand même bien écrit. On verra pour la suite. Gardons un œil sur Le Seigneur des Anneaux. Moi, je vous dis, sur Amazon Prime Video, allez écouter ça. Wow! Ça fait 35 minutes que je parle. Je pensais même pas en faire 20. On a terminé pour aujourd'hui toutes mes revues. Je vais fermer le podcast dans quelques instants. Écoutez, il y a un paquet de choses que je voudrais vous dire. Il y a un paquet de choses que je planifie. J'ai hâte déjà au prochain épisode qui sera quelque part la semaine prochaine, probablement lundi prochain, parce que la semaine prochaine, c'est l'exposition des 23 de Disney. On va avoir une panoplie de nouveaux projets Disney à discuter, des nouveautés sur la plateforme Disney+, parce qu'en plus sur Disney+, toujours plus, c'est le Disney Plus Day, le jour Disney+, vendredi, on va avoir Pinocchio, on va regarder ça. Puis moi, ben de mon côté, je veux qu'on parte une communauté, je veux qu'on discute ensemble. Vous pouvez trouver la liste d'écoute sur Facebook, sur mon site Buzzsprout, sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Partagez-le en grand nombre. C'est Marc Alexander qui vous dit à la semaine prochaine pour le Disney Plus D. Ça devrait être un jour férié. Salut, à bientôt.